C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une affaire exceptionnelle.
Une affaire maintenant digne d'un polar qui mêle meurtre politique, espionnage et poison.
Alexandre Litvinenko devenait-il l'homme qui en savait trop? Cet ancien colonel du KGB, réfugié politique en Grande-Bretagne, enquêté sur l'assassinat le mois dernier de la journaliste russe d'opposition Anna Politkovskaya. Il a été empoisonné. Il est toujours dans un état grave à l'hôpital à Londres.
L'affaire Litvinenko, du nom de cet ancien agent du KGB devenu dissident, mortellement empoisonné en 2006 à Londres où il s'était exilé avec sa famille. Son histoire fait aujourd'hui l'objet d'une série en 4 épisodes, Meurtre au polonium, l'affaire Litvinenko, diffusée à partir de ce jeudi sur M6. Et c'est donc sur cette histoire que l'on va revenir aujourd'hui dans Focus, avec des archives sonores, des extraits de cette mini-série britannique et surtout un témoin, Marina Litvinenko, la veuve de l'ancien espion russe. Bonjour à vous. Alors d'abord, cette série, elle a été imaginée, tournée avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'à vos yeux, l'invasion russe du 24 février 2022 l'a rendue encore plus nécessaire, encore plus importante?
Yes, I agree.
Oui,
it was very important.
Tout à fait.
It happened coincidentally.
D'autant plus important.
It was not planning, of
course. Alors bien entendu, rien de cela n'avait été planifié.
Situation in Ukraine, even before.
Il y avait de toute façon la situation en Ukraine qui était difficile déjà dès 2014, avec l'annexion de la Crimée, avec l'est de l'Ukraine qui avait été pris par la Russie. Mais cette série, en fait, elle aurait dû être lancée.
About investigation of Litvinenko case, wanted very much to do
plus ou moins en parallèle avec une série qui devait être lancée sur la Lituanie.
And this was planning to do in,
et tout ceci était à l'origine envisagé pour 2020, mais vous le savez très bien, tout ce qu'il s'est passé en 2020 du fait du Covid, tout a été reporté, annulé. Et David Tennant, qui est l'acteur britannique qui a joué le rôle de mon mari, je le remercie vraiment car il a accepté de continuer à tenir ce rôle. Et donc, le calendrier aura voulu au final que cette série soit filmée juste avant l'invasion de l'Ukraine, ce qui a bien entendu renforcé l'impact de cette série.
Nous sommes donc en novembre 2006 quand commence cette série, le 1er novembre. De retour chez lui, Alexandre Litvinenko se sent mal. Quelques jours plus tard, il est hospitalisé et clame avoir été empoisonné.
Capitaine, je veux vous signaler un meurtre.
Quel meurtre ?
Le mien. Aujourd'hui, oui, je suis en vie, je tiens debout, mais demain, non, demain, je serai fatigué. Dans 2 jours, pire encore, très faible. Dans 3 jours, ou peut-être 4, c'est fini.
Dans un premier temps, ce que l'on voit, Marina Litvinenko, c'est la méfiance des forces de l'ordre et des médecins. Ça a été une réalité. On ne le croyait pas au départ quand il parlait d'empoisonnement.
Je suis très reconnaissante aux personnes qui ont réalisé cette série, car c'est tout à fait représentatif de la réalité. Pour moi, c'est presque un documentaire, en fait. Tout ce qu'ils ont pu montrer dans cette série, c'est la vérité, c'est la réalité. Par exemple, dans un premier temps, le fait que les médecins et les autorités ne croyaient absolument pas que il y avait quelque chose de cet ordre qui était en cours. C'était un mystère pour eux. C'était très difficile pour eux de le croire.
Mais votre mari, lui, n'a pas de doute. D'ailleurs, il accuse dans une lettre posthume, lue dans la série par un de ses proches.
Depuis mon lit d'hôpital, j'entends distinctement les battements des ailes de l'ange de la mort et j'ai peu de chances de lui échapper. Je pense par conséquent qu'il est temps pour moi de m'adresser à la personne responsable de l'état dans lequel je me trouve.
vous avez réussi à me réduire au silence, moi. Mais un concert de protestations venu du monde entier va résonner dans vos oreilles, Monsieur Poutine, et vous les entendrez pour le restant de vos jours. Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait, non seulement à moi, mais à notre Russie bien-aimée et à son peuple.
Peut-être pour qu'on comprenne bien, Marina Litvinenko, ce qui conduit à une telle certitude, il faut rappeler que votre mari, il avait dénoncé la corruption et les pratiques du KGB, devenu FSB, dirigé à la fin des années 90 par Vladimir Poutine. Il l'avait dit tout ça publiquement. Il avait fait de la prison en Russie. Il se savait menacé.
Yes, Sasha swore. My husband name home name is Sasha.
Sasha, everybody knows puisque c'est le nom affectif de mon mari. Tout le monde le connaît comme Alexander, mais pour moi, c'est Sasha. Et tout avait commencé en 1998 lorsqu'il a dénoncé publiquement le FSB, c'est-à-dire le nouveau KGB, à la télévision publique comme étant une organisation extrêmement dangereuse. Et il s'est rendu compte que ceux qui étaient à la tête du FSB étaient en fait en train de prendre le contrôle de la Russie. Et à l'époque, il y avait de nombreux changements en cours en Russie. Et en 2000, nous avons dû fuir le pays. À cette époque, Sasha avait commencé à publier certains ouvrages, certains livres pour jeter un coup de projecteur sur les dangers en cours dans le pays. En 1999, par exemple, il y a eu de nombreux bombardements sur des immeubles à Moscou et dans d'autres villes. Des centaines de personnes sont mortes. Et néanmoins, c'était si difficile à croire que l'État soit capable de tuer ses propres ressortissants. Eh bien, mon mari, Sasha, il était un professionnel de la lutte antiterroriste. Et cela a donc commencé à être son cheval de guerre, dénoncer ceci, ce danger que représentait la Russie pour son propre pays, mais également pour le monde entier. C'est pour cela qu'il est devenu un danger pour le régime de Poutine.
Et ce combat, il a continué après son exil, après votre exil ?
Il savait qu'il serait en danger. Néanmoins, au Royaume-Uni, on pourrait se dire qu'on était en sécurité. En 2003, après 2003, le Royaume-Uni est devenu un endroit tout à fait spécial, dirons-nous, pour les Russes qui étaient très riches. Ils ont commencé à acheter à tour de bras des propriétés immobilières, à envoyer énormément d'argent sur des comptes bancaires au Royaume-Uni. Et donc, cela fait que si le gouvernement britannique s'était tenu à nos côtés dès le début, cela aurait eu un impact très négatif sur les relations entre les deux pays. Mais malheureusement, il y a eu cette situation qui s'est produite.
Vous aviez donc trouvé refuge au Royaume-Uni où vous veniez d'obtenir la citoyenneté britannique peu avant l'empoisonnement. Vous vous sentiez à l'abri, enfin en sécurité.
Alors effectivement, nous avions reçu la nationalité britannique en octobre, tout juste quelques semaines avant l'empoisonnement de Sasha et quelques mois avant sa mort. Mais je n'avais jamais eu le sentiment qu'il me faudrait fuir Londres ou le Royaume-Uni, car c'était un endroit dangereux pour moi. Cela aurait pu nous arriver absolument partout. On n'est nulle part en sécurité au final, quel que soit le pays. Qu'il s'agisse de l'empoisonnement de mon mari ou d'autres, le régime de Poutine le sait très bien, quoi qu'il arrive, il sera tranquille. il ne sera pas poursuivi. Donc, en fait, que ce soit le Royaume-Uni, la France ou tout autre pays, à part s'il y a une réaction extrêmement forte de l'Union européenne ou du pays concerné contre le régime de Poutine, on n'est nulle part en sécurité.
De cette affaire, on garde forcément en tête cette photo restée célèbre d'Alexandre Litvinenko, amaigri, alité dans son lit d'hôpital, ayant perdu tous ses cheveux, et puis son mode opératoire aussi, parce que après de très nombreuses analyses, on découvre qu'en fait votre mari a été empoisonné par une substance radioactive distillée dans du thé, comme le rapportait RTL ce 24 novembre 2006.
Alexandre Litvinenko, ancien espion russe, réfugié en Angleterre il y a 6 ans, est bel et bien mort d'empoisonnement, mais le produit utilisé n'est vraiment pas ordinaire, Daniel Caron. Les autorités sanitaires britanniques parlent de polonium-210.
Oui, le polonium-210 est un corps radioactif qui résulte de réactions nucléaires et qu'on ne trouve pas chez le droguiste du coin. On en a trouvé dans les urines du malheureux. Substance très toxique à dose infime.
Marina Litvinenko, si l'empoisonnement ne faisait pas de doute pour vous et votre mari, est-ce que le choix même de la substance, que certains ont comparé à l'effet d'une petite bombe nucléaire, vous a tout de même choqué, bouleversé, pétrifié, vous et les enquêteurs?
Yes, and I would like some make another knowledge to you.
Et d'ailleurs, si je puis me permettre une précision, les auteurs de ce crime, et cela a été prouvé depuis, c'était Lugovoy et Kovtun, en tant qu'anciens agents russes, qui ont été derrière ce crime, et également l'État russe. Et ce sont eux qui ont été commandités. Et c'était vraiment le meurtre parfait, parce que le polonium, normalement, il est indétectable. Et donc, mon mari aurait tout à fait pu mourir en quelques jours après son empoisonnement, et sa mort aurait été inexpliquée. Parce que, en fait, le polonium, sauf si on cherche vraiment le polonium, on ne peut pas le détecter. Et le tout dernier jour qu'il était en vie, c'est là qu'on a découvert le polonium, car il souffrait de symptômes de radiation. Mais cela aurait pu être une autre substance, ce que l'on sait, par exemple, des bombes nucléaires ou de l'explosion à Tchernobyl. Cela correspond aux rayons gamma, mais là, ce n'était absolument pas des rayons gamma. Et lorsque nous avons décidé de chercher, de détecter des rayons alpha, c'est là qu'on a découvert qu'il s'agissait du polonium. Mais en fait, ce polonium, il n'est censé laisser absolument aucune trace. Donc en fait, alors qu'il était en train de vivre ses derniers jours de vie, lui-même était l'enquêteur en chef de sa propre mort. Quelques jours après sa mort, toutes les personnes qui avaient été en contact avec Sacha ont dû subir un certain nombre d'examens médicaux, et moi-même j'étais très inquiète d'avoir été exposée à cette substance, et effectivement j'y étais exposée, mais dans une bien moindre mesure, et donc ma vie n'en était pas menacée. Donc bien entendu, je me suis sentie assez soulagée. Mais bien entendu, on peut se poser des questions quant à l'effet à long terme de cette exposition à cette substance. Mais je le savais, il fallait que je continue à vivre, d'aider mon fils et de survivre à tout ceci.
Dans la série, d'ailleurs, on voit des policiers accompagner brièvement l'actrice qui joue votre rôle au domicile familial pour récupérer des affaires. Ces policiers qui jettent le café qui leur a été servi une fois qu'elle a le dos tourné par peur d'être contaminée. Ça aussi, vous l'avez vécu, en fait, ce polonium, il laisse des traces partout où il est passé. Et ce sont ces traces qui vont guider les enquêteurs qui ont travaillé forcément dans des conditions très particulières.
Vous enlevez veste et manteau et vous enfilez sur le champ une combinaison. Puis vous enfilez des bottes et bien sûr des gants. Scotch autour des chevilles et des poignets. Ensuite, vous mettez le masque, la capuche, vous remontez la fermeture jusqu'en haut et vous la scellez avec du scotch.
Et grâce à ces traces, très vite, deux suspects vont être identifiés.
Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtoun sont retournés en Russie le 3 novembre. On a la certitude que ce sont eux, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est trouver des preuves matérielles qui relient nos deux hommes de façon irréfutable au polonium.
Plusieurs policiers britanniques sont même envoyés à Moscou pour des auditions ou des parodies d'auditions. Vous y avez cru, à ce moment-là, à un possible procès, à une condamnation ?
I believe too. I was always
c'est ce que je voulais. J'ai toujours dit aux policiers au Royaume-Uni que ce n'était pas le bon moment. Mais quel que soit le temps qu'il faudrait attendre, nous y parviendrions. Kovtoun est mort l'été dernier et on ne le sait pas pourquoi. Alors la version officielle, c'est qu'il est mort du Covid. Et maintenant, il ne nous reste que Lugovoy. Mais bien entendu, il faut qu'il soit jugé, qu'il soit porté devant les tribunaux, parce que je veux savoir si, qui a été derrière ce crime commandité, qui a donné les ordres. Il ne faut jamais dire jamais. Je suis très soutenue par la justice britannique, donc nous le verrons peut-être qu'un jour, effectivement, ce sera le cas.
Sauf qu'en fait, la Russie n'a eu de cesse de nier. Moscou, par ailleurs, n'extrate pas ses ressortissants. En plus, Andrei Lugovoy, dès décembre 2007, est élu au Parlement russe. À ce titre, il va donc bénéficier. Il bénéficie d'ailleurs toujours en tant qu'élu de l'immunité. Et on comprend très bien dans la série qu'après les avancées judiciaires finalement assez rapides au départ, eh bien le dossier s'enlise pendant 5 ans jusqu'en 2011. Il ne se passe rien. Comment vous avez vécu ces années-là, Marina Litvinenko ?
2006-2011, en fait, ça a été le temps de l'enquête. Moi-même, ainsi que mes amis et l'équipe de juristes qui m'accompagnent, nous nous tenions prêts. On peut tout à fait d'ailleurs porter une affaire devant les tribunaux sans avoir à présenter les principaux accusés. En revanche, il faut pouvoir présenter des preuves. Et nous étions prêts dès 2007 pour que cette enquête soit officiellement lancée. Mais en fait, moi, j'ai reçu une demande de la police qui m'a demandé à ce qu'une investigation à proprement dit approfondie soit lancée. Il faut que les preuves scientifiques très précises puissent être apportées. Et puis le gouvernement également m'a formulé une demande. J'avais une excellente communication avec David Miliband et l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, et il m'a dit « Il va y avoir des élections en Russie, un nouveau Parlement va être élu, peut-être qu'il y aura un nouveau président. » Alors, peut-être qu'il y avait une certaine naïveté quant à la possibilité que quelqu'un autre que Poutine soit élu, mais il y avait peut-être effectivement cet espoir. En 2011, en revanche, voilà, ça a été le grand retour de Poutine et en 2011, il a donc décidé de revenir à la présidence de la Russie. Et pour moi, en fait, c'était... cela signifiait que Lugovoy ne serait pas extradité, cela signifiait qu'il n'y aurait pas une vraie enquête en Russie.
Pour faire avancer l'affaire, vous vous êtes tourné vers la justice, vous avez obtenu l'ouverture d'une enquête publique, c'est une procédure assez particulière au Royaume-Uni qui permet de poser des faits sans prononcer de condamnation. 2 mois d'audience que vous avez suivi chaque jour, assidûment, et à la fin, cette conclusion rapportée à l'époque en 2016 dans RTL Soir.
Le rapport d'enquête britannique est sans appel. Vladimir Poutine a probablement approuvé l'opération. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. Ce soir, le Premier ministre David Cameron accuse ouvertement Moscou.
David Cameron a dit qu'il s'agit d'un meurtre commandité par un État. S'il condamne l'acte avec des mots forts, il ne peut pas faire beaucoup plus. Le Royaume-Uni doit conserver des liens avec la Russie, un allié dans la lutte contre Daesh en Syrie. Mais Londres entretient cette relation sans illusion et sans enthousiasme. enthousiasme, dit-il. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, a de son côté annoncé quelques mesures limitées.
Le ministère des Finances a accepté de geler les actifs des deux accusés et nous allons aussi convoquer l'ambassadeur de Russie à Londres au ministère des Affaires étrangères pour lui exprimer notre profond mécontentement face au manque de coopération de la Russie.
Ensuite, en 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la Russie était responsable de l'assassinat de votre époux. Vous attendez plus, malgré tout, encore un procès pour Andrei Lugovoy. Votre combat n'est pas terminé.
We already said it would be last moment when we have this proper justice. And people who committed this crime.
En fait, pour moi, le combat s'arrêtera lorsque les personnes qui ont été derrière ce meurtre seront jugées.
It would be when I would be able to go back to Russia.
Mais aussi le jour où je pourrai revenir en Russie. Ce jour où je pourrai revenir en Russie, ce sera la fin de mon combat. Car ce sera le jour où la responsabilité de Poutine aura été établie. Tous ces crimes qu'il a commis contre le peuple russe, le peuple ukrainien, contre toutes ces personnes qui ont été empoisonnées et tuées. Peut-être que ce sera ce jour-là que mon combat s'arrêtera. Si vous voulez, il y a cette affaire qui est la mienne, qui est individuelle, mais tout cela s'inscrit dans une matrice bien plus globale du régime de Poutine. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Cette part, elle a beau être petite, elle est très importante.
Est-ce que vous regrettez quand même qu'après les conclusions de cette enquête publique, notamment les autorités britanniques, n'aient pas davantage sévi contre la Russie?
I would say it's not only British.
Il ne s'agit pas uniquement des autorités britanniques. En 2006, l'État britannique était bien seul. Pour tout le monde, c'était une affaire individuelle. Personne ne prêtait vraiment attention au fait qu'il y ait eu cette substance radioactive qui ait été utilisée en plein cœur de Londres. Mais j'ai été soutenue pour la publication d'un livre qui a été publié d'ailleurs en tout premier lieu en France. Il y a eu tout ce soutien humain qui s'est créé autour de moi, mais les hommes politiques, en revanche, ils ne prenaient pas l'affaire au sérieux, car à l'époque, les liens commerciaux étaient bien plus importants entre le Royaume-Uni et la Russie. Et donc, il fallait maintenir ces bons termes avec la Russie. Du point de vue économique, peut-être, il se disait que à partir du moment où il y a ces bonnes relations, cela permettrait de garantir la sécurité. Maintenant, on s'en rend bien compte, cela n'est absolument pas le cas.
Oui, il y a eu ce cas en 2006, celui de votre mari, mais il y a eu ensuite d'autres affaires. L'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov en Russie en 2015. Il y a eu l'affaire Skripal, l'empoisonnement d'un ancien agent du renseignement militaire russe et de sa fille. C'était en 2018, là encore au Royaume-Uni. Est-ce que Londres et le monde ont tardé à comprendre ce qui se jouait réellement en provenance de Moscou?
Je dirais que il y a toujours eu ce retard dans la réaction, cette lenteur. Et cela, à chaque fois, permettait à Poutine et à son régime de sentir qu'il avait une longueur d'avance et de se dire quelle faiblesse de la part des autres États. Vous ne pouvez pas vous battre contre moi, car c'est moi qui suis le plus fort. Et donc, il y a eu cette relation de dépendance qui s'est renforcée au fil du temps avec le pétrole, avec le gaz. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une dépendance qui est telle que cela était un choc. Et maintenant, c'est la thérapie de choc pour se défaire de cette dépendance. Mais une fois de plus, on aurait pu peut-être se faciliter la tâche en réagissant un petit peu plus rapidement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et le front uni présenté par de très nombreux pays, vous pensez pouvoir retourner un jour en Russie et voir la fin du régime de Vladimir Poutine?
Je ne pense pas que je reviendrai en Russie prochainement. Je ne pense pas que je pourrai voir la fin du régime de Poutine en Russie. En fait, aujourd'hui, j'ai ce sentiment extrêmement fort. Je reviendrai en Ukraine une fois que la guerre sera finie. Je soutiendrai ce pays pour qu'il puisse se reconstruire. Pour nous tous, l'Ukraine, c'est un pays qui a cette force de changement chevillée au corps, cette force d'être différent et meilleur, je le pense.
Oui, l'Ukraine où vous étiez au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. Dernière question, Marina Litvinenko. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez peur pour vous, pour votre fils ?
Pas spécialement aujourd'hui. Je dirais qu'au début, en 2006, c'était une inquiétude lorsqu'il y a eu l'enquête policière, lorsqu'il y a eu l'enquête publique en 2015. Là, une fois de plus, j'ai ressenti un petit peu plus la crainte. Mais à Londres, en tous les cas, je ne me sens pas menacée. J'ai des contacts directs avec Scotland Yard. Si j'ai le sentiment qu'il y a quoi que ce soit, je peux les appeler. Mais je ne peux pas dire que je me sente particulièrement inquiète.
Merci Marina Litvinenko d'avoir témoigné dans cet épisode de Focus à l'occasion de cette série diffusée donc à partir de jeudi sur M6, Meurtre au Polonium, l'affaire Litvinenko. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.